Et celui qui vient de nous rejoindre dans la Mystery Machine, c'est Loïc Jamin, maire adjoint en charge du tourisme, des musées, de l'attractivité et de la valorisation du patrimoine. Bonjour Loïc, comment ça va ?
Bonjour Radio Pulse, ça va bien ? Bienvenue à Bayeux.
Bah, merci beaucoup. Donc on en parlait en intro, mais on peut dire Bayeuxin, Bajocas, on peut tout dire ?
Ouais, on peut tout dire, mais en fait la différence c'est que les Bajocas sont nés à Bayeux, alors que les Bayeuxins ne sont pas nés à Bayeux, donc voilà toute la différence. Alors moi qui suis breton, mais bayeuxin depuis 35 ans, voilà, je cours, mais je ne rattraperai jamais le vocable bajocas.
Nous, on peut dire qu'on est des bayeuxins parce qu'on vient d'arriver ou
pas? Est-ce qu'on peut dire qu'on est des bayeuxins? Pas vraiment, Tatiana.
Nous, ça fait une heure qu'on est là.
On vous accepte ce soir, pas de souci. On a l'habitude, on a un accueil VIP ici à Bayeux avec cette clientèle internationale.
Bah, clairement, on l'a bien ressenti, l'internationalité de la ville. En tout cas, c'est un rêve qui s'éteint peut-être de ne pas être bajocas.
Oui, ben voilà, faut accepter les choses avec pragmatisme et réalité. Mais mes enfants sont nés à Bayeux, donc
c'est bon.
Alors, donc je suis à moitié pardonné.
Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas assister à une messe. Nous sommes juste sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Bayeux.
Je ne sais pas si on entend les cloches.
Je pense qu'on les entend parce que franchement, elles sont très très fortes. C'est magnifique.
Et c'est gentil de les faire sonner pour nous.
Ouais, c'est super.
Voilà, c'était le cadeau de bienvenue.
C'est pour ça qu'on est vraiment reçus comme des VIP. Bon, du coup, Loïc Jamin, ton rôle, c'est d'être maire adjoint en charge des musées, de l'attractivité et de la valorisation du patrimoine. C'est ça ou il manque des mots ?
Non, c'est ça. Tout est rassemblé dans ce vocable-là.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que ça englobe dans Bayeux, ce rôle-là ?
Alors j'ai aussi la chance d'être le président de l'office de tourisme intercommunal, donc mon rayon d'action ou le rayon d'action des équipes vont un peu plus loin que Bayeux, jusqu'à la mer avec Aromanche ou Port-en-Bessin, ou plus au sud avec Jeumondé, qui sont aussi des marqueurs de notre attractivité sur Bayeux et son territoire. Donc voilà, c'est s'occuper de nos musées, de nos trois musées de Bayeux, bien sûr le musée de la tapisserie de Bayeux, le musée mémorial de la bataille de Normandie et le MAB, le musée d'art et d'histoire. Donc voilà, faire en sorte qu'on développe des politiques attractives pour attirer des nombreux visiteurs et des nombreux touristes sur notre destination.
Bah, c'est sûr qu'on s'égarait dans l'après-midi avec Tatiana sur le parvis de la cathédrale et j'étais un peu choqué d'entendre autant de langues en fait se balader dans Bayeux.
Ouais.
Il y avait à la fois de l'espagnol, de l'anglais, de l'allemand, de l'italien.
C'est vivant en fait.
C'est vraiment une ville qui attire énormément d'étrangers chaque été.
Oui, on a pris le virage du développement touristique dans les années 2000 en fait. Voilà, Bayeux avait différentes industries, notamment l'usine Moulinex. Et tout ça est allé malheureusement en déliquescence. Et on a pris ce virage du développement touristique avec ce pari d'essayer d'attirer des touristes et créer de la richesse à partir de la culture et du développement touristique.
Et donc là, on va un petit peu revenir sur les trois musées qui font forcément la force du patrimoine culturel de Bayeux, et en commençant par la tapisserie de Bayeux. Par an, ça représente combien de spectateurs, la tapisserie ?
Alors, l'an dernier, 430 000 visiteurs, en moyenne 400 000 visiteurs par an. Donc c'est un gros, très gros musée de province, voilà, avec une clientèle internationale à 70%, comme je le disais. Donc c'est important pour une petite ville comme Bayeux, et ça nous permet d'engranger des richesses pour vivre bien nos budgets.
Bah, c'est sûr. Et moi qui suis mauvais en histoire, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette tapisserie de Bayeux ?
Alors là, il faudrait plusieurs séquences.
Oui, Cette tapisserie,
elle compte la fabuleuse épopée de Guillaume le Conquérant qui s'en va conquérir l'Angleterre. Et voilà, donc il combat les troupes anglaises, et notamment à Hastings le 14 octobre 1066. Et donc toute cette tapisserie, cette broderie, qui n'est pas une tapisserie, qui est une broderie,
hein,
une broderie de lin, ouais. Et donc, de 70 mètres, raconte en fait, compte cette épopée normande et cette épopée de Guillaume qui, à la fin, il y a une happy end qui devient roi d'Angleterre. Donc voilà, une belle aventure humaine et une belle aventure à l'époque pour les Français.
Bah, qui se finit par une victoire, oui. Et les Normands, oui.
Mais justement, parce que j'ai l'impression que beaucoup de touristes viennent à Bayeux pour voir cette tapisserie. Comment vous faites pour diversifier votre offre touristique pour ne pas dépendre justement d'un seul récit historique qui est la tapisserie ?
Bien sûr que non, on a plusieurs cordes à notre arc. Notre axe de développement, c'est le D-Day, bien sûr, puisqu'on est à proximité des plages du débarquement. Et puis à Bayeux, on a le cimetière britannique, où près de 5000 tués ont été enterrés en 44 et 45. Donc c'est aussi important. Donc on développe cet axe autour du D-Day également, mais pas que. On a beaucoup aussi travaillé sur la politique vélo. On en parlera peut-être plus avant tout à l'heure. Une politique vélo, on savait qu'on avait du retard sur nos itinéraires, sur nos boucles cyclables, donc ça fait 15 ans qu'on y travaille et c'est un attrait, un atout touristique également fort. On travaille aussi sur l'ensemble de notre patrimoine parce que Bayeux a aussi la cathédrale et concentre notamment des belles maisons du 18e siècle et aux alentours on peut aussi voir voilà, des abbayes, je pense à l'abbaye de Longue-sur-Mer ou l'abbaye de Juémondé, donc tout ça aussi forme en fait plusieurs marqueurs de notre attractivité touristique. Donc il n'y a pas que le médiéval, il n'y a pas que le D-Day, il y a aussi le patrimoine, il y a aussi le vélo et bien sûr comme on n'est pas loin de la mer, on essaie de développer avec Port-en-Bessin et Arromanche une attractivité littorale.
Et vous avez aussi en plus vous êtes le seul à avoir le musée reporter des journalistes.
Oui, c'est un événementiel qu'on a développé depuis plus de 35 ans, le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre, avec effectivement des stèles qui sont dédiées aux journalistes qui sont tombés pendant les conflits. Donc voilà, juste à proximité du musée mémorial de la bataille de Normandie, nous avons ce jardin, ce mémorial des reporters, et c'est aussi un axe très important qui montre toute la modernité aussi de la ville de Bayeux. On ne s'est pas recroquevillé sur notre histoire, on a essayé d'aller chercher aussi d'autres atouts dans la modernité. Et ce prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre, qui se tiendra encore cette année au mois d'octobre, est là pour formaliser un peu notre ambition sur ce terrain des conflits armés et d'essayer de donner à voir le monde, comment le monde est, grâce aux reportages qui sont primés à Bayeux.
Mais du coup, c'est vraiment un festival avec un prix, donc les des reporters de guerre qui viennent et qui présentent leur travail.
Bien sûr, tous les plus grands reporters de guerre sont à Bayeux pendant toute cette semaine du prix Bayeux. Voilà, les plus grands, les plus connus, étrangers bien sûr, américains, britanniques ou australiens, et français bien sûr. Les reporters de France 2, chacun connaît des noms comme Maryse Burgot par exemple. Oui. Maryse sera là encore cette année pour la promotion de son livre notamment, mais oui, c'est un grand rendez-vous et ils nous disent toujours, ils se croisent dans les aéroports, ils n'ont pas le temps de tchatcher ensemble, donc ce qu'ils font, ils se retrouvent à Bayeux, ils disent tu viens à Bayeux cette année, oui je viens, je présenterai un film, un documentaire ou un livre, c'est là qu'on se retrouve, voilà.
C'est trop bien, mais du coup, est-ce qu'on sait qui sera le jury cette année ?
Oui, il y a toujours un jury important. Le jury est composé de journalistes importants, de membres, qui sont là pour raconter la profession. Et chaque année, il y a bien sûr un président du jury. On a eu des présidents fabuleux comme Christiane Amanpour, notamment de CNN. Enfin, il y a des grands noms du journalisme.
Ah, de CNN. Ah oui, qui viennent du monde entier.
Bien sûr, CNN, bien sûr. Oui.
Et c'est un événement qui est ouvert au public ?
Bien sûr, ouvert au public. Voilà, on peut venir chaque année. Alors, il y a des séances qui sont sur inscription. Faut s'inscrire parce qu'on est vite, débordé. Mais il y a des grandes soirées thématiques, des soirées cinéma, des soirées grand reporter, des soirées documentaires et des expositions dans la ville, des expositions dans des lieux publics et aussi en extérieur.
Est-ce que tu peux nous rappeler les dates ?
Oui, alors ça commencera le lundi 6 octobre jusqu'au 11-12 octobre.
Du 6 au 11-12 octobre, Tatiana note dans son petit carnet.
Voilà,
à ne pas manquer, évidemment. Pour en revenir un petit peu au musée, le musée de la bataille de Normandie, c'est évidemment le musée sur le débarquement. Et c'est un musée où c'est marqué « On rentre en immersion durant l'été 1944 lors de cette bataille de Normandie ». Mais comment cette immersion, en fait, elle est rendue possible dans le musée ?
Bien, la particularité de ce musée, c'est qu'il y a pas mal de matériel et du matériel de très grande qualité qu'on ne retrouve pas dans, dans d'autres musées. Donc c'est des collections qu'on a acquis au, au fil du temps, et on est vraiment, quand on dit en, en immersion, oui, on est là à regarder le matériel, on est là à comprendre cette histoire, on est là à comprendre le déroulement de cette bataille de Normandie qui a commencé sur nos côtes et qui a fini du côté de Falaise et de la pose de Chambois notamment. Donc voilà, c'est une longue histoire, et on est face à la réalité avec des objets vraiment voilà, qu'on vous retrouverez nulle part ailleurs, pas dans d'autres musées. Donc, donc on a ce musée mémorial de la bataille de Normandie, et on a aussi le musée d'Arromanches, les Bains, qui vient d'ouvrir ses portes il y a maintenant 2 années. Voilà, c'est un complément, hein, un complément entre Arromanches et Bayeux sur cette thématique du D-Day. La particularité de Bayeux, c'est qu'on raconte aussi un peu l'histoire de cette ville de Bayeux pendant la guerre, qui a été une ville hôpital.
Une ville hôpital.
Voilà.
Dans le sens où elle accueille
Tous les blessés.
Forcément.
Voilà, au grand séminaire notamment aujourd'hui qui accueille la tapisserie.
Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que c'est, on l'a dit un petit peu dans l'intro, mais c'est une ville qui a été épargnée par les bombardements et qui a pu garder ses meubles.
Complètement épargné. Donc heureusement, parce qu'on a là de belles bâtisses du 18e siècle, notamment, hein, on est juste à proximité de la place de Gaulle, hein, qui est juste derrière nous, et effectivement tout ce patrimoine a été préservé. Alors la petite histoire dit que c'est un curé, un prêtre, qui serait allé au devant des libérateurs des troupes britanniques en disant: ne bombardez pas, ne tirez pas, pas de char dans la ville, les Allemands sont partis, ils ont fui ce matin, donc vous ne trouverez rien. Donc voilà. Donc les Anglais ont pris réalité, et bien sûr il n'y avait plus d'Allemands dans la ville, donc il n'y avait pas besoin
de tout bombarder.
Oui,
bombarder.
C'est ça. Et par rapport justement à vos musées, comment vous faites pour que les attentes du public ça puisse leur convenir, peut-être moderniser sans pour autant trahir l'histoire, mais
oui, enfin je crois que l'avenir de nos musées il est complexe, il est vraiment compliqué. En fait, moi j'ai toujours cru, et je pense que aujourd'hui c'est la vérité, dans un musée il faut créer de l'émotion. Donc ça sert à rien de mettre 40 000 fusils d'assaut de tel type, etc. Un fusil d'assaut et une histoire d'un homme qui portait ce fusil, et essayer de raconter la petite histoire dans la grande histoire, c'est ce qu'aime le public. Donc voilà, il faut avant tout créer de cette émotion. Et je fais souvent référence à nos sites, par exemple, à la batterie de Longues-sur-Mer, qui est pas très loin d'ici. Il n'y a pas grand-chose, il y a des casemates, on voit des canons, mais... Eh bien, les gens, qu'est-ce qu'ils viennent prendre ici? Ils viennent prendre une émotion. Ils essayent de formaliser l'image, voilà, des libérateurs qui arrivent, ils regardent le ciel, etc. C'est pareil à Omaha Beach. À Omaha Beach, il y a du sable, la mer. Pourquoi il y a tant de monde? Parce que les gens viennent chercher de l'émotion. Et alors, les musées racontent un petit peu l'émotion. Aujourd'hui, oui, on fait appel au virtuel, etc., etc. Mais rien ne remplace l'émotion pure, l'émotion naturelle, l'émotion sincère. Et donc, moi, je dis souvent, nos scénographies doivent être allégées pour donner à comprendre sans voilà, matraquer d'informations. Je pense que c'est plus ça qui est important aujourd'hui.
Et est-ce que vous avez particulièrement eu un site, un lieu qui vous a profondément touché et que vous pourriez dire à quelqu'un, si vous demandez où je peux aller découvrir quelque chose de Bayeux,
où
vous l'emmènerez en fait?
Oui, c'est la tapisserie, bien sûr. Hein. quelle émotion quand on rentre dans cette galerie et qu'on découvre ces 70 mètres de long, cette broderie qui nous regarde depuis des siècles et qui est toujours là et qui raconte notre grande histoire. Donc ça, c'est vraiment une émotion pure. Voilà, nos publics viennent de très loin, d'Australie, d'Amérique, pour avoir ces 20-25 minutes de contemplation d'une œuvre millénaire. Et ça, rien ne remplace cette émotion. Et je vous assure, si vous interrogez les visiteurs à l'issue de leur visite, chacun dira « Waouh, je suis venu, je ne suis pas déçu, j'ai eu de l'émotion et ça fait des frissons. » Et c'est une réalité, parce que beaucoup de visiteurs nous le disent chaque jour. Encore aujourd'hui, on a dû faire 3000 visiteurs à la tapisserie. eh bien, c'est cette histoire qu'ils viennent chercher, comprendre, voilà, sans prétention. Alors, bien sûr, vous avez les férus d'histoire, les érudits.
Évidemment.
Mais le grand nombre de publics qui, voilà, viennent juste vivre des émotions.
Mais d'ailleurs, en parlant de conservation, là, plutôt, comment est-ce que vous faites, comment déjà, est-ce que vous avez fait pour, par exemple, d'avoir ce matériel de la Seconde Guerre mondiale, à la fois du débarquement, et comment vous l'avez conservé? Et pareil pour la tapisserie, comment est-ce que tout ça se conserve? Surtout qu'on le rappelle, la tapisserie, elle est quand même classée mémoire du monde de l'UNESCO, donc faut y prendre soin.
Ouais.
Oui, faut y prendre soin. Alors,
c'est le minimum.
Effectivement, alors on est aidé par les services de l'État également, puisque c'est une œuvre qui appartient à l'État. Bien sûr, on y prend soin depuis de nombreuses années. Elle est sur ce site-là du Grand Séminaire depuis 1983, et à la fin de l'été, elle aura vu passer plus de 17 millions de visiteurs.
Ouais.
Donc voilà, donc nous avons un conservateur en chef des musées qui, avec toute une équipe, qui veille sur la tapisserie chaque jour. Voilà, elle est dans des conditions de préservation et de présentation optimum. Tout ça est vérifié, plus que vérifié, je vous l'assure, et chaque matin. Donc,
on te croit.
Si ça peut rassurer tout le monde, il n'y a pas de souci. Voilà, et pour les objets du musée de la bataille de Normandie, bah oui, c'est aussi, ils font partie de nos collections, donc on en prend également soin. Nos œuvres aussi dans d'autres musées, comme le musée d'art et d'histoire Baron Gérard, on n'en a pas encore parlé, mais c'est aussi notre vitrine culturelle à Bayeux. Là aussi, on en prend soin, on restaure les tableaux quand il y a besoin. On essaie aussi d'avoir une politique d'acquisition d'œuvres nouvelles pour satisfaire nos clientèles.
Et bah parlons-en maintenant du musée d'art et d'histoire Baron Gérard, c'est bien ça le
nom. Voilà.
Qu'on peut réduire en... Comment est-ce que tu l'as réduit?
Le MAB.
Le MAB, voilà.
Ouais, c'est son nom de code.
Quand on est bajocas, on dit le MAB. qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce musée?
Alors, vous avez bien sûr des collections de peintures, des différentes époques, mais aussi de la dentelle, puisque Bayeux était une ville dentelle.
Alençon, on connaît bien aussi.
Voilà, je sais qu'Alençon... donc, on a beaucoup de contacts avec Alençon. Et
on est liés, finalement.
Voilà, et tous ceux qui aiment la dentelle. Il faut savoir qu'ici, à Bayeux... Bayeux était une ville dentelière, c'est-à-dire il y avait des ouvrières qui travaillaient la dentelle. Il y avait plus de 15 000 à l'époque, 15 000 dentelières qui brodaient. Donc voilà. Donc on a ces collections de dentelle, on a aussi des collections de porcelaine, parce qu'à Bayeux il y avait aussi une usine de porcelaine, alors qui fabriquait de la porcelaine pour ce qu'on appelle la pharmacie, la pharmacopée, aussi de la porcelaine pour la table, donc les assiettes, les services, etc. Donc on a conservé tout ça des différentes époques. On a aussi un petit peu de gallo-romain, parce que dans des fouilles archéologiques, on a retrouvé ici à Bayeux, puisque Bayeux était au départ une ville gallo-romaine, c'était la ville la plus importante du Calvados, voire de Normandie, avant Caen, puisque Bayeux a été créé avant Caen. Il faut se le rappeler. Donc voilà, toute une histoire. C'est 2000 ans d'histoire dans ce musée.
Wow.
On y raconte 2000 ans d'histoire. Et les visiteurs sont subjugués par ce musée, parce que la scénographie est vraiment très très moderne. Et donc le bâtiment aussi allie cette modernité, puisqu'on est dans l'ancien palais épiscopal, mais on y a construit un bâtiment aussi à côté, assez moderne. Donc tout ça va bien.
Encore une recherche d'émotion pour le visiteur.
Oui, les visiteurs sont surpris par l'ensemble de ces collections. Alors, quand on rentre dans un musée d'art et d'histoire, on dit ouais, il y a de la peinture, etc. Mais pas que, il y a aussi de la porcelaine, mais pas que, il y a aussi de la dentelle. Et on a, valoriser la dentelle, on a reconstitué un showroom des grandes maisons de couture, la maison de couture Lefebvre qui existait à Paris à l'époque.
Et d'ailleurs, ce musée, par rapport aux deux autres, par rapport à la tapisserie et au musée sur la Seconde Guerre mondiale, comment on fait pour le valoriser et le mettre en valeur face un peu, j'ai envie de dire, aux deux monstres?
Oui, c'est compliqué. Il vit à l'ombre de la cathédrale, de la tapisserie et à l'ombre aussi du D-Day. Donc voilà, on essaie de vendre des billets jumelés et triplés au départ des autres musées. C'est un peu notre stratégie. Mais franchement, c'est un musée qui mérite qu'on s'y attarde un instant. Je le dis souvent, moi, quand je croise des visiteurs dans la ville, qu'on fait les deux grands musées, les deux principaux musées, la cathédrale, je dis juste à côté de la cathédrale, allez voir, prenez un billet et vous n'allez pas regretter.
C'est à nous aussi, en tant que médias vecteurs de messages, de rappeler qu'il y a autre chose à voir et à visiter. Mais moi, justement, on parlait beaucoup des visiteurs, et j'ai l'impression que Bayeux, c'est donc extrêmement visité, mais comment justement alors attirer les jeunes talents, les gens à venir vivre ici plutôt que le visiter? Ou justement vous voulez pas qu'ils
visitent? Je pense que ah ben, si on aime bien tout le monde, hein.
Ils peuvent pas devenir bajocas, donc
on a une cible en ce moment, c'est les familles, voilà. Mm-hmm. Essayer d'attirer les familles pour remplir nos écoles,
c'est ça.
Donc voilà, donc c'est une cible pour nous. Je pense que quand on visite Bayeux, on peut être, vous l'avez été vous-même, séduit. Vous m'avez raconté un peu votre surprise. Donc on joue sur ces atouts-là, mais on a encore beaucoup de travail, parce que on a beau avoir un beau patrimoine, un environnement assez plaisant, on peut y circuler à vélo, on n'est pas loin de la mer, on n'est pas loin de Caen, la capitale. Mais pour autant, c'est compliqué parfois d'accueillir les familles. Donc voilà, on y travaille et on y travaillera dans les mois
ça
qui viennent et les années qui viennent.
Un lieu touristique finalement.
Oui, ça reste. Mais pas que, puisque nous on y vit. Moi j'y vis 35 ans, donc c'est pas qu'un lieu, c'est pas le Mont-Saint-Michel, hein, c'est pas Étretat, c'est Bayeux avec ses spécificités. Donc il faut accepter, voilà, qu'on parle toutes les langues dans la rue principale ou dans ce secteur, piétonnier.
C'est agréable d'entendre autant de diversité,
ouais,
surtout l'été.
Voilà, on a l'impression d'être tous les jours en vacances ici.
Bah oui, c'est pour ça.
Donc bienvenue aux familles, bienvenue aux jeunes familles.
Bienvenue à Bayeux.
Voilà, bienvenue à Bayeux.
Et pour en revenir un petit peu à la vie culturelle, à quel point ça a un impact sur la vie économique de Bayeux?
Eh bien, quand on fait de l'événement comme le prix Bayeux ou voilà, 3 soirs par semaine, là on a rendez-vous à la cathédrale ou le festival international du cirque au printemps notamment, ou encore les médiévales, je pense que tout le monde en profite, les visiteurs bien sûr, mais les bajeuxins, les bajeux. Et tout l'environnement, toutes les communes, voilà, du Bessin et plus largement aussi les Canets ou nos amis de la Manche ou toutes les clientèles qui sont à proximité peuvent en profiter. Donc c'est pour ça qu'on a cet événementiel, je pense, de qualité qui sait allier eh bien les autochtones, mais pas que, aussi les touristes et les visiteurs. Donc on a toute une palette d'événements comme ça au fil de l'année. On égrène les événements. Ben là, on sort du Tour de France et de ce fabuleux départ de Bayeux sous un soleil radieux.
Ça devait être incroyable.
Était enchanté. On a vécu un moment incroyable. Donc tout le monde a pu en profiter de cet élan populaire autour du vélo.
Bah, toi qui en plus es en charge de la valorisation du territoire, du patrimoine, le Tour de France a dû être un énorme coup de projecteur.
Bah oui, quand on connaît les millions, voire les milliards de vues sur les réseaux sociaux, ouais, notamment, c'est quelque chose de très important. On l'avait jamais fait, et avec mon collègue Arnaud Tancrel, qui devrait arriver, qui est là déjà.
Qui tourne autour de la matière machine.
Voilà, faut pas que je parle beaucoup. on en avait rêvé avec monsieur le maire, et puis voilà, on l'a fait. Je pense que c'était une réussite collective, un engouement populaire. Moi, j'ai jamais vu un tel engouement, enfin... Parfois, vous créez un événement, puis il y a les petites critiques qui arrivent, les petits coups de patte. Vraiment, sur le Tour de France, on n'a pas eu ça.
Un sans faute.
Et vraiment, oui, on peut le dire, un sans faute collectif. Et voilà, et la météo, encore une fois, était avec nous. Mais la météo est souvent avec nous pour les grands rendez-vous. Elle était au rendez-vous du 80e anniversaire l'an dernier. On a aussi accueilli la flamme olympique. On a aussi du très beau temps. Donc, on a des séquences ensoleillées. Bien, quoi de mieux?
Trop bien. Et d'ailleurs, il y avait Kevin Vauclin, bayeuxin.
Voilà.
Bajocas ou bayeuxin?
Non, il est né à Bayeux. Il est né à Bayeux, Kevin. Oh, oui. Donc, on l'a suivi. Bah, pour nous, c'était le tour dans le tour. Hein, pour
ah, bah,
nous,
c'est sûr, c'est sûr.
Voilà, il fallait se dépêcher d'être sur les radios, sur les réseaux, pour voir l'arrivée de Kevin chaque soir, à chaque étape. Et puis, vraiment, quand je pense que on était beaucoup à croire en lui. Il avait montré des choses au printemps et l'an dernier, et donc voilà, il a été au rendez-vous 7e du tour.
C'est exceptionnel.
Top 10, c'est exceptionnel pour lui. Et puis ça fait parler de Bayeux, hein. Combien de fois on a entendu le mot Bayeux,
ouais.
Et voilà, sur les ondes. Donc pour nous qui sommes en charge de l'attractivité, quoi de mieux? Et merci Kevin.
La montgolfière aussi avait pas mal fait parler.
Oui,
la montgolfière avec la grosse tête de Kevin Vauclin dessus.
Il était le premier surpris, je pense. Hein, de voir sa tête, voilà, ça crée aussi pour lui d'émotion. Puis ils sont tellement sympas, sa famille, tellement, voilà, on a su aussi nouer quelques liens avec Kevin.
Donc elle vole encore ou pas, cette montgolfière d'ailleurs?
Ah ça, oui, elle vole la montgolfière.
Elle vole.
Elle
est...
voilà. Oui.
Mais merci
oui,
beaucoup.
Bah, je vous en prie.
Merci beaucoup.
Est-ce que tu as un dernier mot pour nous donner envie de revenir pour oui, moi et Tatiana et
pour les
devenir...
futurs Bayeuxins ou
Bajocas. Bah revenez quand vous voulez pour parler de Bayeux. Il y a,
moi,
y a pas de souci.
Je reviens en octobre au moins.
Voilà, revenez pour le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. C'est en octobre. C'est l'événement qui suit. Et puis là, trois soirs par semaine autour de cette cathédrale. Rendez-vous à la cathédrale. Contemplation. Vraiment un spectacle magique à partir de la nuit tombée. Jusqu'à minuit, je pense que voilà, faut faire le déplacement et se rendre compte de ce qui se passe trois fois par semaine ici à Bayeux.
Et en plus à Bayeux, il y a beaucoup d'hôtels, il y a plein d'endroits pour dormir, donc
et aussi des restaurants pour se restaurer.
Et des restaurants évidemment.
Voilà, on peut y passer une journée, deux, si on est du côté d'Alençon. Eh bien, c'est pas très loin et oui, on regrette pas son séjour. Sinon, je m'y engage. Hein, voilà, faut... voilà.
On donnera ton adresse à la fin de l'émission.
Y a pas de problème.
Si vous n'aimez pas,
voilà.
Bah, nous on a adoré te recevoir, merci beaucoup Loïc Germain. Et puis avant pour finir, clôturer cet entretien, je perds mes mots, on va s'écouter un peu de musique avec notamment Rise Against tout de suite sur Radio Pulse. La Mystery Machine est toujours à Bayeux.